Les parts actualités. Bonjour à vous toutes et vous tous. Nous sommes aujourd'hui le lundi 16 janvier 2017. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine pour vous présenter les paractualités. Je m'appelle Clotilde Sey. Alors, les titres aujourd'hui. Les nouveaux menus font leur début dans les CHSLD de Québec. Le traitement des maladies génétiques chez l'enfant. Y aurait-il de l'espoir à l'horizon ? Les 7 ambassadrices du Carnaval de Québec bravent le froid pour la bonne cause. Et puis la nouvelle gare non accessible sur la ligne de Candiac fait grincer quelques dents. C'est le mois de la sensibilisation à la maladie d'Alzheimer avec le lancement d'une nouvelle campagne. Et en Suisse, une neuroprothèse contre la paralysie. Également 2 entrevues aujourd'hui, celle avec Donald Renault, travailleur social à la retraite et impliqué auprès de la troupe À cœur découvert. À cœur ouvert, ce sera encore mieux. Et puis Locke Cory, directeur du regroupement québécois du parrainage civique. Alors allons-y avec les nouveaux menus dans les CHSLD de Québec. L'Institut universitaire en santé mentale de Québec et le CHSLD de Chauveau deviendront bientôt les premiers établissements à offrir les nouveaux repas présentés par le ministre Gaëtan Barrette l'automne dernier. Au cours d'une conférence de presse inusitée, on s'en souvient, le ministre de la Santé avait invité députés et journalistes à venir goûter les nouveaux plats, le ministre qui s'était alors engagé à offrir des repas de qualité dans les CHSLD de l'ensemble de la province d'ici 2018. L'implantation de nouveaux menus s'accompagnera en parallèle d'une centralisation de la production d'une partie des repas. Le CIUS de la capitale nationale passera ainsi de 28 à 3 centres de production d'ici 2 ans qui fourniront les 57 établissements de la grande région de Québec. L'Institut universitaire en santé mentale de la ville de Québec, le nouvel hôpital de Baie-Saint-Paul et l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec seront les 3 centres de production dans la capitale nationale. François Guillasson assure que ce brassage de structures n'entraînera pas de mise à pied parmi les employés affectés au repas des bénéficiaires, mais peut-être que ça va nécessiter des ajustements dans l'organisation du travail, prévient-il. C'est sûr que la nature du travail qu'ils font présentement va peut-être être appelée à changer. De son côté, la présidente du Conseil central de Chaudière-Appalaches de la CSN, Anne Gingras, déplore que ses membres n'aient pas été consultés pour cette vaste réorganisation. Les syndicats demandent à être mis dans le coup, dit-elle, parce qu'il y a des choses qui sont en train d'être décidées et les syndicats ne sont au courant de rien. Traitement des maladies génétiques pour l'enfant, y aurait-il de l'espoir à l'horizon? Il existerait environ 7000 maladies rares affectant un Canadien sur 12. Au Québec, une personne sur 20 serait atteinte ou porteuse d'une maladie rare, ce qui représente près de 500 000 personnes. Les 3/4 de ces maladies touchent les enfants et sont mortelles, et on estime que 8 maladies rares sur 10 sont d'origine génétique. Les maladies rares et génétiques touchent peu de personnes. De fait, elles ne reçoivent pas l'attention de celles qui affectent un plus grand nombre de gens. Ces maladies qualifiées d'orphelines sont cependant un fardeau pour les familles touchées. Quant aux chercheurs qui s'y consacrent, ils se sentent parfois abandonnés par les pouvoirs publics. C'est le cas de Carl Ernst, chercheur à l'Institut Douglas de Montréal. Malgré la rareté des fonds publics, il pense que certaines maladies rares et génétiques chez l'enfant pourraient être bientôt traitées grâce aux avancées technologiques et scientifiques. Bien que rares, les troubles génétiques chez les enfants touchent quand même quelques 500 000 enfants au Canada. Les recherches en cours visent à identifier les gènes à l'origine de ces troubles. Ce qui complique la tâche des chercheurs, c'est la faible quantité d'ADN dont ils disposent, compte tenu du petit nombre d'enfants touchés. Cela dit, une nouvelle forme de séquençage de l'ADN permet maintenant de retracer les gènes pathologiques, même si on dispose d'un petit échantillon. Donc, la piste de la thérapie génique semble être la bonne. Grâce à elle, on peut remplacer dans l'ADN un gène malade par un autre, par celui qui ne l'est pas. Les gènes retravaillés en laboratoire sont administrés soit directement dans l'organe malade, soit sur des cellules en culture réinjectées par la suite au patient. La copie saine du gène prend alors le relais de la version malade et permet à l'organisme de retrouver un fonctionnement normal. « Il s'appelle Donald Renault, il a longtemps été travailleur social, il est aujourd'hui à la retraite et il s'implique auprès de la troupe à cœur ouvert. Bonjour Monsieur Renault.
Oui, bonjour.
Alors je suis ravie d'avoir cette petite discussion avec vous aujourd'hui. J'aimerais que vous nous parliez de cette troupe à cœur ouvert et de sa mission.
Oh, la troupe de théâtre à cœur ouvert existe là, depuis plus de 30 ans.
Ah oui.
Donc, c'est sûr que bon, sa mission est d'offrir un loisir, mais aussi un lieu où chacun peut développer, dans le fond, le côté artiste en lui, sa créativité.
Mm-hmm.
Donc, depuis toutes ces années, la troupe a fait beaucoup de production en théâtre d'été.
Mm-hmm.
Elle a même fait un méga spectacle, donc une création multidisciplinaire là, pendant 16 années.
Cette
année. Un peu à l'image là, de la fabuleuse au lac Saint-Jean.
Oui, oui, oui.
C'était
oui.
Le paradis du Nord avec 75 comédiens, donc qui étaient un moteur. Dans le fond, au fur et à mesure, la troupe est devenue aussi au niveau culturel un moteur, bien sûr, culturel, mais de développement économique, développement aussi touristique.
Bien sûr.
Et
vous êtes situé où?
Avec ses activités, elle a développé aussi le côté qu'on appelle le théâtre d'intervention.
Oui.
Donc, tout l'aspect aussi de développer en parallèle avec des partenaires tels le CLSC ou les centres de santé actuellement pour aller rejoindre dans le fond notre communauté sur différentes problématiques.
OK.
Donc, mettre le théâtre et la culture au service là, du côté social pour aller rejoindre les gens dans leur milieu parce qu'on sait que par l'aspect théâtral, souvent, c'est une bonne façon d'aller faire de la sensibilisation, d'apporter des messages. Et ben en même temps, c'est de joindre ce côté-là avec la portée sociale.
Et vous êtes installé où? C'est...
La troupe?
Oui, la troupe.
Nous autres, ben c'est ça, la troupe, sont depuis peut-être une vingtaine d'années, on a un siège, notre siège social à la Sarre, donc... On a développé en collaboration avec la ville qui nous a vendu pour $1 là, un local. Et donc, comme on est une entreprise d'économie sociale, la troupe a un statut d'entreprise d'économie sociale, on a pu aménager un beau local avec une salle de répétition.
D'accord.
Dans là-dessus, notre centre administratif, l'entreposage aussi. Et à l'occasion, on fait des partenariats aussi pour le prêt de nos locaux là, pour des activités culturelles.
Mm-hmm. Et vous travaillez beaucoup pour les aînés, hein?
Oui, effectivement. Là, depuis, c'est sûr que moi, comme travailleur social et organisateur communautaire, j'étais particulièrement rattaché en tout ce qui concerne les dossiers des aînés. Et les dossiers aussi, ben, on parle aînés, mais on parle aussi beaucoup de proches aidants.
Oui.
Donc, toute la dimension au niveau des proches aidants. Et depuis quelques années aussi, on a fait beaucoup d'activités en ce qui concerne l'abus, la négligence envers les aînés. Donc, ça, c'est des aspects dont je touchais comme travailleur social et ces volets-là qu'on a aussi travaillé en collaboration avec la troupe à cœur ouvert, justement, pour monter différents outils là, de promotion-prévention.
Alors, entre autres, vous avez créé comme des petites vidéos?
La création des... de courts vidéos, c'est pas des capsules, c'est des courts vidéos d'une vingtaine de minutes.
Oui.
Donc, et c'est bâti, dans le fond, sur une expertise clinique. Donc... un intervenant social a rencontré une équipe de créateurs au niveau de textes pour les superviser justement les textes pour toucher différentes problématiques. Bon, je parlais tout à l'heure de la négligence.
L'abus ou des choses comme ça sur les personnes âgées.
La prévention aussi au niveau de la réalité des aînés, de la maladie d'Alzheimer.
Oui, oui.
Donc, on a joint l'équipe de créateurs, l'équipe de comédiens, la supervision clinique qui est importante aussi, pour pouvoir monter de courtes mises en situation. Au départ, on les a faites sous forme de vidéo et dernièrement, on les a actualisées comme sous forme de téléroman.
Ah oui?
Oui, donc filmées de façon différente. Donc, pour, comme on dit, actualiser nos outils.
Oui, oui.
Faut les actualiser et accompagne aussi ces vidéos-là, ce qu'on appelle un coffre à outils,
oui.
Qui sont, des dans le fond, des dépliants. Okay, mm-hmm. Qui donne un petit peu plus d'informations, aussi des éléments de référence.
Mm-hmm.
Et les deux aspects peuvent servir justement à des intervenants ou des groupes pour faire une soirée de sensibilisation.
Bien sûr, mais où est-ce qu'on peut les voir? Où est-ce qu'on peut voir cette espèce de petit téléroman-là, alors?
Ben, les cinq vidéos actuellement viennent de... C'est tout chaud, là.
Oui.
On a terminé au mois de décembre. Donc, à partir de janvier, les gens peuvent toujours communiquer avec, justement, le bureau de la troupe à cœur ouvert.
Donc, on fait quoi? On vous contacte via le site?
333.
Excusez-moi, je n'ai pas bien entendu le début, pardon.
Le 819.
Oui.
333.
Oui.
4100.
Oui.
Et donc, aussi, c'est barre de soulignement ouvert.
Oui.
À commercial.lino.com.
lino.com, oui. D'accord.
.com.
D'accord.
Donc, à partir, parce que la phase actuelle, c'est justement l'aspect de diffusion
ben oui, c'est
de
ça.
Ces outils-là.
Bon.
Mais on a une expertise, parce que anciennement, comme je vous parlais, on avait déjà fait une première série de vidéos,
mm-hmm.
et on avait eu des demandes là, dans des maisons d'enseignement,
oui.
des groupes, un peu partout au Québec. Là. Donc,
bon.
On est déjà un peu connus au niveau d'outils, mais on a vraiment actualisé le tout. Là.
Ben écoutez, Donald Renaud, je trouve ça vraiment passionnant, ce que vous faites avec la troupe à cœur ouvert, puis on vous remercie, vous qui êtes à la retraite, de vous impliquer comme ça, hein, dans ce groupe-là. Et on va vous souhaiter bonne chance et bonne continuation.
Ben, merci beaucoup. Merci de l'intérêt de porter à nos projets.
Ben, c'est normal, c'est normal. Merci beaucoup, Donald.
Parfait.
Bonne journée. Au revoir.
Merci.
Par actualité régionale, porte-à-porte, visite de commerce et de restaurants, Elisa Cloutier nous raconte que le froid intense n'a pas freiné les ardeurs des 7 ambassadrices du Carnaval de Québec qui, le 13 janvier dernier, sillonnaient les rues de leur duché pour vendre la bougie. Les duchesses qui se sont engagées à verser $1 à un organisme de leur choix pour chaque bougie vendue. Leur tournée a débuté tôt, dès 6h, dans différents restaurants de la ville, puis se terminait aux petites heures avec la traditionnelle tournée des bars. C'est le clou de la journée où on se motive et on se retrouve. Les 7 ensemble lançaient Steffi Tedge, représentant le duché de la cité Limoilou. Pour sa part, les profits de ces ventes iront à la Maison des Petites Lucioles qui offre des services de répit pour des enfants handicapés de 0 à 12 ans. Je voulais donner une visibilité à un petit organisme qui est indispensable pour les familles d'enfants handicapés. Je voulais un peu redonner à la communauté puisque pour ma part, je remercie le ciel. Toute ma famille est en santé, mentionne celle qui espère remettre près de $2000 à l'organisme d'ici la vente de la fin. D'ici la fin de la vente de la bougie, voilà, le 22 janvier prochain. Et puis, au moins 200 bénévoles se sont mobilisés donc pour accompagner les duchesses sur le terrain. Les organismes choisis avaient également installé plusieurs points de vente un petit peu partout à travers la ville pour mousser les ventes. La bougie est en vente jusqu'à dimanche prochain. Le nombre de bougies vendues sera connu à ce moment-là, mais les organisateurs espèrent dépasser les 41 000 vendues de l'an dernier. Et puis, rappelons pour finir que le Carnaval de Québec aura lieu du 27 janvier au 12 février prochain. C'est une bonne nouvelle, hein, la mise en place d'une gare. C'est lundi dernier que la nouvelle gare du canal à la Chine a été mise. Non, pardon, c'est donc aujourd'hui qu'elle sera mise en service sur la ligne de Candiac. Hein. Elle est située entre les gares de train de Montréal-Ouest et de La Salle. Elle a comme objectif d'inciter les automobilistes à contourner les changeurs turcos durant les travaux et de leur permettre de se déplacer plus rapidement vers le centre-ville. Cet aménagement temporaire a été financé à l'échelle de 10 millions de dollars par le ministère des Transports pour les 10 prochaines années. Le financement n'inclut pas un édicule ou un ascenseur pour rendre cette gare accessible aux personnes à mobilité réduite, à l'instar de toutes les autres gares sur cette ligne, ce que déplore bien évidemment, le rapplique, le regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec. Monsieur Locke Corrie, à qui nous avons déjà parlé, je le retrouve avec grand plaisir. Monsieur Corrie, vous êtes directeur du regroupement québécois du parrainage civique. Comment allez-vous?
Ben, ça va, c'est lundi comme d'habitude. Hein.
Ah oui, c'est ça. Hein. Est-ce que vous êtes dans le Blue Lundi, vous? Il paraît que c'est la journée la plus plate, finalement, de l'année, m'a-t-on dit?
Oui, mais bon, là, on a pas mal de choses à faire au bureau.
Ah.
Donc, on doit être actif. Là.
Alors, qu'est-ce que vous avez à faire au bureau? Racontez-nous.
Ah bah là, en ce moment, pour les organismes communautaires, c'est tout ce qui est demande PESOC, donc au niveau de notre financement,
okay.
Pour le programme de soutien aux organismes communautaires. Donc, on est en plein dedans, et notamment tous mes organismes de parrainage civique au Québec.
Alors, le parrainage civique, c'est un terme qu'on entend de plus en plus. Hein. C'est vraiment un terme qui veut dire n'attendez pas finalement trop après le gouvernement parce qu'il faut qu'on se relève les manches nous-mêmes. Hein. C'est un petit peu ça, le parrainage civique?
Le parrainage civique, c'est assez abstrait.
Oui.
Il y a le terme de parrainage, de civique. Les gens sont un peu confus avec ça. Mais nous, c'est vraiment la mise en relation de deux personnes. Donc, une personne vivant avec une déficience intellectuelle et un bénévole que l'on met en jumelage pour former une relation d'amitié pour aider ces personnes vivant avec une déficience intellectuelle à s'intégrer à la société par le biais de diverses activités.
C'est né en Allemagne, ça? J'ai lu quelque part. Est-ce que c'est vrai?
C'est né, donc on suit une philosophie qui est de Wolf. Alors là, j'ai pas fait allemand, moi, deuxième langue, j'ai fait espagnol, donc je vais tenter de bien le prononcer. Wolf Wolfenberger.
Oui, bah c'est pas mal du tout.
Ouais, c'est pas mal, hein, c'est mon petit côté germanique. Donc lui priorisait donc la valorisation des rôles sociaux, donc tout ce qui est le développement du pouvoir d'agir de la personne vivant avec une déficience intellectuelle. Nous au Québec, c'est né il y a environ 35 ans, un peu plus de 35 ans.
Ah oui, quand même.
Début des années 70, c'est venu ici.
Mm-hmm.
Donc, nous, c'était pour faire face à la désinstitutionnalisation. Donc, on a plus ou moins ouvert des services de parrainage civique un peu partout au Québec. Ça a commencé au niveau anglophone, dans un banlieue ouest de Montréal.
Oui. Je
sais qu'en Ontario, il y a également à Ottawa un organisme de parrainage civique. Mais aux États-Unis, c'est un mouvement qui a plusieurs années déjà. Et dans chaque État, il y a un organisme de parrainage civique donc pour cette clientèle en déficience intellectuelle, pour... Donc, les intégrer à la société.
Oui, bien sûr. Alors, comment ça se passe? Parce que comment les gens vous rejoignent-ils? D'abord, les personnes qui sont elles-mêmes en difficulté. Est-ce que vous arrivez jusqu'à elles? Et puis, est-ce que vous avez beaucoup de mal à trouver des bénévoles?
Alors, comment on nous rejoint? Là, je vais en profiter pour faire ma promotion.
Ben oui, il faut.
Mais donc, nous avons un site internet qui est parrainagecivique.com, tout simplement.
Oui, d'accord.
Et nous avons également un numéro gratuit qui est le 1-877-727-7246. Donc, on peut nous appeler à travers le Québec gratuitement. Il n'y a pas de problème. Donc, nous, on est une...
Attendez, alors, excusez-moi parce que c'est allé assez vite. 1-877-277-1246?
Non, c'est 1-877.
Oui.
En gros, c'est 1-877 par 1. Donc, 727-7246.
7-2-4-6, d'accord.
Ouais, donc c'est ça. Et vous tombez sur moi quand vous m'appelez, donc c'est,
ah bon,
c'est
d'accord.
Douce voix. Mais donc nous, on a une vingtaine d'organismes de parrainage civique au Québec, mm-hmm. et ensuite on dispatche les personnes en fonction donc de la localité et du rapprochement au niveau du kilométrage.
Mm-hmm.
Donc, pour,
oui, bien sûr. Et vous avez besoin de bénévoles? On fait comment pour vous? Pour s'inscrire, parce que j'imagine, en plus, vous ne prenez pas n'importe qui. Je veux dire, il faut quand même
qu'il y a des gens qui ont
la tête sur les épaules.
Il y a tout un processus. On prend, entre guillemets, n'importe qui. En tout cas, tout le monde est bienvenu au parrainage civique. Mais pour se faire jumeler, il y a, il y a, Il y a tout un tas de processus à suivre, parce qu'on ne jumelle pas n'importe qui
Mais non, bien
avec une
sûr.
personne vivant avec une DI. On va voir en fonction des affinités des différentes personnes, des bénévoles, mais également de notre clientèle en déficience intellectuelle, pour faire le meilleur jumelage possible et viable à long terme. Donc nous, on demande un engagement qui est régulier et sur le long terme. Donc c'est sûr que ce sont des termes qui font peur en ce moment, le terme d'engagement et de long terme. Mais,
et de bénévoles.
et de bénévoles.
Oui.
Mais donc on s'adapte à toutes les personnalités en fonction des disponibilités. Mmh. Et c'est vraiment de partager un univers, que ce soit avec la personne en déficience intellectuelle, mais également son propre univers à soi, son réseau, etc. Mais avec la personne vivant avec une DI. Donc pour former un beau jumelage, pour vraiment participer, pour que la personne vivant avec une DI participe à la société par le biais de diverses petites activités, mais qui sont énormes pour eux. Mmh. Et puis, il ne faut pas oublier qu'ils sont des citoyens et des consommateurs comme nous autres.
Bien sûr. Est-ce que et ce sera là ma dernière question, est-ce que vous êtes capable de chiffrer à peu près le nombre de personnes qui profitent, qui bénéficient comme ça d'un parrainage civique au Québec?
Sur nos derniers chiffres, on est en train de les refaire, mais sur les derniers chiffres d'il y a 2 ans, nous sommes à peu près 997 jumelages actifs à travers le Québec, oui, mais il y a également près de 700 filleuls, on les appelle les filleuls, personnes vivant avec une DI ou un problème de santé mentale, en attente au Québec. Donc, on a besoin de 700 bénévoles. J'espère qu'avec cet appel, grâce à la radio, on va en récolter au moins 650.
Mais écoutez, je vous le souhaite.
Je vous fais une demande déjà de bénévoles.
Écoutez, moi, ce que je peux vous promettre, Locke, parce que je suis déjà moi-même bénévole et j'en fais des choses comme ça dans ma vie.
Oui, je sais bien.
Mais regardez, par contre, ce que je me propose évidemment de faire, c'est de mettre... Les gens pourront vous retrouver facilement aussi via notre site internet sous l'onglet « Nouvelles ». On va se faire un plaisir de faire savoir que
merci,
vous avez
Claudine.
Besoin de bénévoles pour 700 personnes à peu près en attente d'un parrain civique.
Et on se parle bientôt pour la semaine québécoise de la déficience intellectuelle qui sera mi-mars, où au niveau du parrainage civique, on a encore des choses à annoncer.
D'accord. Bah écoutez, si des fois on est un peu lent sur la détente pour vous rappeler, rappelez-nous, vous.
Oui, oui, oui. Ne vous inquiétez pas.
Merci beaucoup,
merci,
Locke.
Au revoir,
et je vous souhaite une belle journée. Salut, bye. Actualité nationale, la maladie d'Alzheimer, un défi de société. Oui, c'est normal que nous en parlions beaucoup en ce moment, puisque la société Alzheimer souligne le mois de la sensibilisation à cette maladie avec le lancement d'une nouvelle campagne dont on a déjà parlé, c'est vrai. Mais elle veut rappeler que les familles, les amis et la société en général subissent tous les répercussions de cette maladie dégénérative et irréversible. Le mot-clé de la campagne, donc dièse tous contre Alzheimer, revient à dire que tout le monde est affecté par les maladies cognitives, indique le porte-parole de la société Alzheimer du Manitoba, Daniel Danfous. Quelques 25 000 personnes sont diagnostiquées avec un trouble cognitif annuellement au Canada. Selon un communiqué de la société Alzheimer, le Canada compte 564 000 personnes atteintes d'une maladie cognitive. Pour M. Danfous, la recherche dans le domaine demeure primordial. Encore aujourd'hui, il n'y a aucun médicament efficace ou de traitement pour l'Alzheimer, dit-il, une maladie qui a pourtant été découverte il y a plus d'un siècle, en 1906. La société Alzheimer est le principal organisme de financement de la recherche sur les maladies cognitives, maladie qui progresse rapidement. En plus de la recherche, Daniel Danfous précise que la société Alzheimer offre un soutien spécialisé non seulement aux personnes atteintes de la maladie et aux proches, mais également aux prestataires de soins de santé. Et puis, par actualité internationale maintenant, c'est d'après un papier de Yann Verdeau dans leséchos.fr, une neuroprothèse a permis à deux macaques, dont la moelle épinière avait été lésée, de se remettre à marcher normalement. Les essais sur l'homme ont déjà commencé. C'est l'aboutissement de 7 années d'efforts pour un consortium international réunissant laboratoires de recherche et industriels autour de l'École polytechnique de Lausanne, l'EPFL, et un formidable espoir pour les dizaines de milliers de paraplégiques rivés à leur fauteuil roulant. En fin d'année dernière, un article paru dans la revue Nature ou Nature a expliqué comment 2 macaques, ayant subi une lésion de leur moelle épinière similaire à celle en cause dans la paraplégie, ont pu, du jour au lendemain, se remettre à, entre guillemets, marcher sur leurs 4 membres grâce à une interface cerveau-machine, enregistrant d'un côté l'activité cérébrale liée à l'intention de marcher et de l'autre la transformant en stimuli électriques excitant les muscles de la marche. C'est la première fois qu'une neuroprothèse de ce type est testée sur des primates, indique Erwan Bézard, directeur de recherche INSERM et responsable des expériences réalisées à Pékin sur les macaques dans le cadre de ce programme. Ces animaux sont les plus proches de l'espèce humaine sur lesquels il soit possible de faire des expériences. Les grands singes comme les chimpanzés ou les bonobos sont bannis des laboratoires. Ils se sont vus implanter ce système qui fait office de pont entre le cerveau et les centres locomoteurs, commandant les muscles de la marche, court-circuitant ainsi la moelle épinière lésée entre les lombaires et les cervicales. Aussitôt, la neuroprothèse activée, les 2 macaques se sont remis à marcher à peu près normalement. Une première mondiale aussi spectaculaire que prometteuse et qui a immédiatement été suivie d'essais sur l'homme. Bien sûr, de nombreux obstacles techniques doivent encore être franchis pour pouvoir passer du singe à l'homme. À la différence de nos lointains cousins simiesques qui marchent à 4 pattes, il est vraisemblable que les paraplégiques humains équipés de la neuroprothèse ne se remettront pas à marcher normalement du jour au lendemain. De longues séances de rééducation seront nécessaires. Contrairement aux singes, il leur faudra réapprendre la posture debout associée à la bipédie, pronostique le chercheur de l'INSERM. Et puis en rafale maintenant, le magazine Naître et Grandir cherche 2 familles pour des articles qui paraîtront dans l'édition d'été 2017. Voici les 2 familles recherchées pour le dossier sur les enfants à besoins particuliers. Un parent d'enfant ayant une déficience intellectuelle, l'enfant doit être âgé de 5 ans et moins. Le thème de l'entrevue est l'impact de la déficience intellectuelle de l'enfant sur les parents, sur le couple et sur la vie professionnelle des parents. Deuxièmement, un parent d'enfant atteint de paralysie cérébrale, l'enfant doit être âgé de 5 ans et moins et avoir un ou des frères et sœurs. Le thème de l'entrevue est l'impact sur la fratrie, comment réagissent les frères et les sœurs. Les parents doivent accepter d'être photographiés avec leur enfant. Ils ne doivent pas être des personnalités médiatiques ou responsables d'un blog sur le sujet. La journaliste se déplacera à votre domicile pour l'entrevue et la photo. Si votre profil de famille correspond à l'une des 2 descriptions et que vous êtes intéressé, merci de signaler votre intérêt par message privé sur la page Facebook de l'Étoile de Pacho, P-A-C-H-O, réseau d'entraide pour parents d'enfants handicapés. Retenez l'Étoile de Pacho. Voilà, ainsi s'achèvent les paractualités du jour. Merci à vous de les avoir suivies. Je voudrais remercier l'ensemble de mon équipe qui m'aide à vous proposer ces paractualités quotidiennement. Merci à Martin Forgue à la recherche, à Jean-Sébastien Laliberté en régie. C'était Clotilde Seille qui vous souhaite une bonne journée. À demain.